Bonjour à tous, aujourd'hui à Mosaïque, nous recevons François Lauzet pour son dernier livre paru chez Harpo Éditions qui s'appelle Les Voyages ordinaires. Bonjour François.
Salut Christophe.
Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter parce que tu es quelqu'un qu'on connaît ici à Die, mais peut-être que les gens qui vont écouter ce podcast ne connaissent pas.
Oui, alors je m'appelle François Lauzet, j'ai été musicien, j'ai été un peu tout. J'ai été, et je suis maintenant un peu prof de fac, mais c'est vraiment par accro. Et j'aime bien écrire, j'aime beaucoup écrire. En fait, je suis principalement auteur et scénariste au départ. Donc, finalement, ce bouquin, c'est l'aboutissement, d'une certaine façon, même si c'est le premier tome, c'est l'aboutissement d'un long travail de réflexion sur notre rapport au monde, sur nos mélancolies intimes qui déclenchent éventuellement des diverses formes d'utopie qui cherchent à nous réparer. Et c'est aussi surtout un objet, c'est-à-dire que j'ai réfléchi le livre, ce livre-là, avec un illustrateur qui travaille beaucoup, un illustrateur brésilien qui est reconnu, même de façon internationale maintenant, puisqu'en réalité, entre le début du projet, c'était dans les années 2010, où on avait signé un contrat d'édition avec une maison d'édition à l'époque, et au bout de 8-9 ans, rien ne se faisait, on a décidé avec Lorindo, qui avait pris une visibilité supplémentaire, une ampleur supplémentaire, alors qu'on croyait véritablement au projet. On a décidé avec Lorindo et Uli Meissenheimer, qui est la graphiste qui a mis en forme ce livre, on a décidé de reprendre le bébé, vraiment le sortir à nos conditions, avec cette volonté d'en faire un objet, quasi presque un objet de collection, 500 exemplaires à tirage limité pour l'instant. Et de faire entendre ce texte et ce rapport entre illustration et texte, une sorte de rapport de charade. Lorindo a un univers un peu nostalgique de cartes postales, de collages numériques, de peintures numériques, mais en fait c'est du surréalisme, c'est ce qu'on appelle le réalisme merveilleux en Amérique du Sud, et ça joue beaucoup justement sur sa lecture qu'il a fait du texte et des différents destins que je me suis amusé à compiler dans ce livre, quoi.
Alors parlons du texte, est-ce que c'est un roman avec plusieurs protagonistes? Est-ce que c'est plusieurs histoires? Est-ce que...
Alors, c'est à la fois un roman qui suit l'histoire d'un les amours ou les désamours d'un ancien artiste de cirque. C'est également une compilation de destins de personnes qui sont plus ou moins connues ou méconnues, et puis même avec un clin d'œil sur justement cette notion de reconnaissance, puisque il m'arrive de traiter par exemple Tristan Tzara, il est traité comme un jeune homme dont on ne sait pas le nom. Jusqu'au moment où effectivement le livre finit par révéler le pseudonyme qu'il se trouve et qu'il se cherche, une réflexion sur donc le dadaïsme aussi qui s'opère, c'est-à-dire sur la valeur artistique, et puis des personnes qui ont réellement existé mais dont on ne connaît plus le parcours ou le nom. Stevenson par exemple qui a créé le mot fantasmagorie, ou enfin tout un tas de destins, de petits destins, de polygraphes qui ont cherché éventuellement la célébrité ou qui l'ont trouvé et qui l'ont perdu, etc. Bref, tout un tas de destinées qui finalement, à force d'être feuilletées, puisque le bouquin est à la fois dans cette possibilité de captation d'attention rapide, de passage d'une feuille à une autre, mais à la possibilité aussi d'être lu continuellement. Il y a cette histoire principale, donc l'histoire de l'artiste de cirque qu'on retrouve, qui sert un peu d'ossature, de colonne vertébrale, et qui rentre en harmonique avec, oui, plutôt en harmonique, parce qu'il peut y avoir des dissonances, avec les destinées d'autres personnes oubliées, et même des personnes que je m'amuse à voir complètement inventées. Comme des phénotypes possibles, des possibilités d'être, parce que finalement c'est ça le processus de fiction. et même ce processus de fiction qui est en précession sur le réel. C'est-à-dire que très souvent, je croise des personnes qui ont des attitudes qui finalement ont été héritées de personnages de fiction. Hein, pour avoir, je sais pas, fait des ateliers d'écriture en prison, des ateliers de musique en prison, je me suis aperçu notamment que le vocabulaire de toute une part de Tollard, c'était un vocabulaire qui était issu directement
La filmographie.
d'une
Ouais.
filmographie ou de séries américaines même. Et cette filmographie ou ces séries américaines, c'était sans doute appuyé sur des observations du réel aussi. Et il y a un dialogue entre la fiction et le réel, en tout cas en ce qui nous concerne, nous autres, un peu êtres imaginaires comme ça, que ce livre cherche justement à capter, quoi, par miroitement successif.
On est encore dans le travail de scénariste, du coup.
Oui, bien
D'où
sûr.
ça part?
D'où ça part, comment une histoire se raconte, comment une histoire finalement se transforme en une autre histoire, comment une destinée se transforme en une autre destinée, comment finalement derrière la fiction il y a des leçons de vie aussi, des leçons d'utopie, parce que à mon avis tout part de cette notion-là, de cette notion réparatrice qui est une notion éminemment politique, une notion du réel. C'est aussi pour la raison pour laquelle, dans certaines de ces destinées, certains de ces anonymes que je cite, il y a effectivement des communiqués compilés sur ces destins de personnes qui cherchent à arriver en Europe et qui arrivent ou non, et qu'on cherche à refouler ou pas, mais c'est des destins, c'est des vies. En fait, les voyages ordinaires, avec ses références au voyage extraordinaire de Jules Verne, hein. Ces voyages ordinaires, c'est essayer de montrer, parce qu'il y a aussi des portraits de plantes, des portraits d'animaux, des portraits de montrer que chaque existence est un possible voyage.
Et ne devrait jamais tomber dans l'oubli.
Et d'une certaine façon, oui, le rapport au texte, c'est un rapport à. C'est une lutte contre l'oubli, un peu comme. N'importe quel type de figuration qu'on cherche à. On sait le travail perdu d'avance, d'une certaine façon. Mais même si c'est perdu d'avance, le propre de l'humain, c'est justement cette transmission-là, de façon à ce que, au moins pour le plus beau, mais éventuellement pour le pire, c'est un mariage avec l'existence, mais pour le plus beau, les choses ne soient pas oubliées. L'histoire est normalement racontée par les vainqueurs. Je pense que pour une part, la littérature, sans faire.
Il y a une similitude, c'est ça?
Non, la littérature est là pour donner la parole aux vaincus, à ceux justement qui sont oubliés et qu'on cherche à remettre en lumière. Ça fait partie du boulot d'exploration des coins. Refoulés, des coins sombres, des coins non glorieux aussi, de l'ordinaire des choses. Parce qu'en fait, derrière l'ordinaire des choses, il y a une sorte de partage d'instants. Chaque instant est unique, il faut l'entendre et chaque existence est unique, incomparable. Et il y a juste ce jeu de miroitement qui à certains moments, peut être amusant, ironique. Je me souviens d'un. C'est dans le tome qui vient, mais je me suis souvenu notamment d'un concours de sosie de Charlie Chaplin en 1914-1915, où Chaplin avait participé. Il était arrivé 29e. Et en fait, arrivé 29e, je suppose que ça veut dire que les attributs d'un personnage, les attributs d'une personne ou d'une individualité sont capables d'être copiés suffisamment
Oui, et puis c'est aussi l'image qu'on se fait d'un personnage qui devient public et qu'on s'approprie tous,
voilà.
et du coup on imagine, on espère qu'il soit comme ça, alors qu'en fait dans la réalité il est que 29e de ce qu'il est, quoi.
Ce qu'il est, voilà. C'est ce genre de petites anecdotes que je m'amuse à compiler aussi. Outre les personnages qui sont là pour le coup réellement imaginaires, mais dont j'espère que certains peuvent être crus.
Alors, on comprend que les voyages ordinaires ne vont pas s'arrêter au premier tome, il y en aura plusieurs, il y a déjà une série prévue.
Sur le plan de travail, il y a 4 tomes qui correspondent à peu près aux 4 saisons d'existence, d'une certaine façon. Le deuxième est fini parce que, en fait, bien entendu, 10 ans d'attente, d'une certaine façon, pour ce livre, ben ça m'a permis de travailler sur la suite. Donc, le deuxième tome est fini, je me lance sur mes matins d'automne maintenant. Donc,
Ça sera le titre du second volet?
non, ça va être les voyages ordinaires, 2, 3, 4, mais avec des sous-titres faisant part d'une forme de. Oui, des sous-titres. Alors, je parle de matins d'automne en ce moment pour le troisième tome, mais je ne sais pas en fait dans quel cadre ça va. L'écriture va m'amener, quoi.
Ça sera toujours avec les mêmes intervenants. Je rappelle les noms, Lorindo Feliciano, donc qui est brésilien, c'est ça?
Lorindo Feliciano, c'est un illustrateur brésilien qui travaille beaucoup à l'international pour des revues et des éditeurs plutôt connus et qui travaille en France pour la revue 21, le Nouvel Obs, le Monde, etc. Il a aussi un travail d'artiste contemporain, très en lutte contre et très en révolte contre ce qui se passe politiquement au Brésil. Voilà, c'est quelqu'un qui va falloir suivre. Il est plus jeune que moi. Hein. Il a, je pense, je ne sais même pas l'âge qu'il a, il doit avoir 42, 43, enfin il est dans la quarantaine, mais il va avoir une forme de lumière. Il a une forme de lumière. Il porte en lui cette lumière-là et puis cette volonté politique qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud par rapport à la catastrophe qu'on vit actuellement ici, c'est une volonté politique qui donne de l'espoir, vraiment.
Comment s'est faite votre rencontre?
Par le biais de l'éditeur, du premier éditeur. Et c'est d'ailleurs en ça, si on lui en a voulu d'être procrastinateur et de reporter d'année en année la sortie du livre. On l'a toujours remercié. D'ailleurs, il y a un remerciement pour les éditions du Lion qui parle. On l'a toujours remercié de nous avoir mis en contact l'un et l'autre pour imaginer cet objet très particulier et surtout de nous avoir mis en contact aussi avec Uli Messenheimer, puisque c'est vraiment un travail à trois. Uli, c'est une graphiste qui vit à Paris, allemande, qui vit à Paris depuis une trentaine d'années maintenant, qui a intégré des ateliers de graphisme plutôt prestigieux. Elle a travaillé avec la personne, elle va m'en vouloir de ne pas me souvenir de ce nom, son maître, ce qui avait donné l'identité du musée du Louvre, le logotype du Louvre, etc. Mais donc, quand elle a créé son atelier de graphiste, elle travaille beaucoup avec des institutions culturelles de la même façon pour créer les catalogues de saison, les catalogues raisonnés et les livres d'art qui vont avec telle ou telle collection ou tel ou tel artiste. Et c'est donc cette rencontre qui nous permet de créer ce livre avec une mise en page très, très étrange, avec des trous, du vide qui est
Encadré.
encadré, qui est censé correspondre à des illustrations manquantes qu'éventuellement la projection imaginaire du lecteur
Remplir,
peut
combler.
remplir, combler, avec une sorte de jeu de pistes, de notes de bas de page, etc., qui reprend en fait aussi cette notion de charade, de sens, de cette recherche de sens qu'on ch recherche dans l'existence aussi, puisque on cherche tous à deviner un sens à ce qui se fait et au temps qui passe. Hein. Mais c'est juste dans cette fulguration d'objets que cette question se pose. Je ne la pose pas directement, même si elle est posée indirectement par cette collection de destins, réussie ou non. Voilà. Ce livre-là, c'est ça. C'est cette rencontre entre une graphiste qui a saisi cette notion de feuilletage et de recherche de sens, cet illustrateur qui, de par son travail déjà, travaillait sur le collage entre des éléments hétéroclites, et puis mon texte qui lui-même travaillait aussi sur cette notion de collage et de recherche de sens dans les différentes destinées collectées.
Si on est intéressé par cet ouvrage, où est-ce qu'on peut le trouver?
On le trouve à la librairie Mosaïque, cette merveilleuse librairie que je vous conseille. Non, mais on le trouve aussi dans pas mal de librairies parisiennes. On a opté pour un mode de distribution, pour les 500 exemplaires, un mode de distribution très particulier. On le trouve à la librairie du Théâtre du Rond-Point, à la librairie Montand-l'Hère ou Merleau-Moqueur, enfin quelques librairies ciblées à Paris, dont on aime le travail aussi. Cela dit, il est commandable dans n'importe quelle librairie, parce qu'il est en diffusion. Et donc, il suffit d'aller dans sa librairie de quartier, celle qu'on préfère ou celle auprès de laquelle on a ses habitudes, et puis de commander le titre. Puis il y a effectivement le site des éditions Harpo qu'il vend en ligne et qui permet une commande rapide aussi du livre. Harpo, livre audio, point store, voilà.
François, merci beaucoup.
Merci à toi. Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.